Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on retrouve le collectif des menstruels, collectif de correspondance à voix multiple. On écoute le troisième épisode de la série spéciale « Faire le plein amour ». Loin des histoires à l'eau de rose, des contes de fées et des comédies romantiques, cette sélection sonore, toute subjective et sensible, nous parle de notre rapport à l'intime. Des fragments d'interviews enregistrés avec soin dans une recherche de paroles vraies, les paroles du cœur, celles qui ont du grain et du relief, celles qui rappent ou adoucissent, celles qui nous font sentir vivantes, une immersion au cœur de nos histoires de cœur et de corps, à la fois personnelles, universelles et politiques.
Menstruel, adjectif.
Cavaleuse, substantif.
Qui a rapport au menstru.
Argot.
Éclaté, verbe intransitif.
Clandestine, adjectif.
Hémorragie menstruelle.
Coureur de filles, coureuse de garçons.
Journal clandestin, presse clandestine.
Domaine des sensations, domaine de.
Les filles sont ordinairement pubères vers l'âge de 11 ou 12 ans.
Qui existe.
Entre parenthèses, trois petits points.
Fonctionne.
Se briser avec violence.
Se fait de manière secrète.
Soudaineté.
En dehors de ceux qui exercent l'autorité.
En projetant des fragments.
À l'encontre des
ballons,
lois établies.
Mine, vitre qui.
L'abondance de cette évacuation périodique varie chez les différents individus.
Assemblée, démarche,
des gamins
de la procédure normale et licite.
Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux.
Emploi adjectif.
En sont les présages.
Surtout en Espagne et en Italie.
Matin, le récipient dans lequel je fabriquais de l'hydrogène
m'éclatait en constitution et de leur manière
qui ne serait pas du caval.
D'un choc ou d'un changement de
l'abattement, de l'hypotension avec tendance au lipotimie.
En parlant d'un
inanimé menstruel fréquent.
Entre parenthèses, Rossignol, dict.darg.arg.fr et fr.arg.1901, page 24.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
Les menstruels présentent Faire le plein amour. Une série d'interviews concoctées par Margot Séon.
Maud, 33 ans, infirmière.
Mathieu, 33 ans, et infirmier aussi. On s'est rencontrés 20 ans, l'amour des 20 ans, et aujourd'hui on a 33. Alors, par le biais d'une copine, on part sur une coloc dans la Drôme. On imaginait qu'on allait partir dans la Drôme, pouvoir faire un peu de forge, essayer de se redécouvrir soi-même. Et c'est la décision qu'on prend. Et quand c'est sur le point de se faire, qu'on est sur le point d'intégrer cette coloc, qu'est-ce qu'on apprend ?
Eh bien, que je suis enceinte. Voilà. Une soirée un peu éméchée, avec un retard de règles. Je me dis, bon, allez, je vais faire un test de grossesse, qui s'avère être positif. On s'y attendait pas.
Non.
Du tout. Du coup, on part pour cette coloc. Et une fois là-bas, on se dit, non, mais en fait, wow, ça va beaucoup trop vite. On avait dit qu'on allait se poser quelque part, mais là, hyper loin. À ce moment-là, en tout cas, j'avais le sentiment d'avoir besoin d'être proche de ma famille et de mes amis pour vivre ça, que je ne savais pas vraiment ce que j'allais vivre, quoi. Parce qu'en plus, j'étais la première de mon entourage à être enceinte. Toi, de ton côté, c'était pareil. Enfin, voilà, du coup, on s'est dit, on veut être près de nos parents, en fait, hein, je crois. Nos mamans, même. On a décidé de retourner vers chez nos parents, mais quand même pas complètement dans la ville de nos parents. Donc on a atterri à Grenoble, qui est une ville à peu près entre les deux, pas très loin de nos familles respectives.
On s'est dit, où là, on va accueillir un enfant. Ok, alors on n'a pas de toit sur notre tête, pas de taf, pas d'avenir. Donc qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Donc effectivement, on atterrit, on est infirmier, infirmière tous les deux, donc... Dans une ville, il y a des hôpitaux. L'hôpital, c'est là où on peut travailler. Donc, on vise la ville. Et la ville, en plus, c'est une vie facile qu'on connaît. Dans une ville qu'on connaît pas, mais on redécouvre quelque chose, on part à Grenoble.
En tout cas, on fait ce choix-là. On fait ce choix-là, ouais. De partir avec ce nouveau voyage, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait, de vie. Notre nouveau voyage, c'était notre petit bout.
Ça, on change de voyage.
On change de voyage, on accepte ce qui nous arrive et on s'installe, quoi. Du coup, on s'installe à Grenoble. On s'est sentis unis et forts et prêts à accueillir cet enfant avec beaucoup d'amour.
Ouais, prêt, je sais pas. Enfin, d'un coup, on
parle... On se sentait prêt. J'ai pas dit qu'on l'était.
Ouais, toi, je pense que je te sentais prête, ouais. Toi, c'est je pense vrai. Que t'étais...
Oh, j'étais à fond.
Là, pour le coup, on n'était pas au même niveau, non. quoi. Ouais, bah ça fait naître tellement de questionnements l'arrivée d'un enfant et sur soi-même. Surtout qu'on était dans un moment où on se disait la recherche du jeu, la redéfinition du jeu, pour moi comme pour toi. Mais moi, c'était de quoi j'ai envie, quoi j'aspire. Et là, d'un coup, ah ouais, je vais être papa, ok. Bah. Ok, comment ça se passe? Mais c'était chouette, c'était super la grossesse. Et c'était. Enfin, on. On ne savait pas à quoi s'attendre et pourtant on y allait quand même confiant.
On y allait confiant et donc il est arrivé.
Notre et petit Soane.
Notre petit Soane, un 14 juillet 2019. Et voilà, ça a été très compliqué en tout cas pour moi, cette arrivée d'un petit enfant, en dehors de ce qu'apporte voilà, la maternité et ce que c'est. En tout cas, la maternité à l'intérieur de ce que ça fait à l'intérieur de soi. Même sur le plan de notre couple, à nous deux, ça faisait 8 ans qu'on était ensemble, qu'on était heureux, amoureux, qu'on croquait la vie à pleines dents, qu'on avait un équilibre sur lequel on s'épanouissait, on s'adorait, quoi. On adorait passer du temps ensemble, vivre, se réveiller tous les matins ensemble, se coucher tous les soirs ensemble. On dormait enlacés. Pendant nos 8 ans, on a pas... quand on dormait ensemble, on dort enlacés, quoi. Il y a des couples, ils dorment chacun de leur côté, ils ont besoin de leur espace. Nous, on dormait enlacés. Tout le temps, quoi qu'il en coûte. Et puis là, bah, forcément, avec un petit bout, bah, ça change tout. En tout cas, notre couple, d'un coup, c'est
un trio.
C'est un trio, voilà.
Mais pas un trio amoureux, genre triangle amoureux sympa. Non, c'est des amoureux et une troisième personne. Il faut et on ça redéfinit tous les rôles en fait. Chacun change de statut. Tu deviens maman, je deviens papa, on devient parent et on est toujours un homme et une femme.
Les parents
et deux amoureux aussi. Les parents et les grands-parents. Si on va au-delà, ouais, mais déjà juste nous quoi.
Non, je disais les parents deviennent grands-parents.
Ouais, parce que tout le monde change de statut.
Je parle des grands-parents parce que à ce moment-là, moi, en tout cas, ça a été très difficile. Mais au moment donné où j'avais. Enfin, très rapidement, j'ai eu besoin de.
Soutien.
De voir Matt aussi. Oui, de soutien, ça c'est clair. Mmh. Mais ah. En fait, de te voir, d'être passé du temps avec toi. J'avais trop besoin, ça me manquait trop en fait. Ouais. C'était. J'aimais très fort mon petit Soane, quoi, ça c'est clair, même s'il me faisait vivre des choses très difficiles, mais ça c'est sur le plan plus maternel, ça serait un autre sujet à aborder, mais en tout cas, si on parle de l'amour et du couple, en tout cas, de ce que pour nous est l'amour, le couple, c'était trop dur, il me manquait trop en fait. Donc on avait besoin de soupapes, de personnes qui pouvaient nous permettre de passer du temps ensemble, et puis c'est là où on met les grands-parents. Donc nos parents, qui sont devenus grands-parents, pour la première fois des deux côtés. Donc aussi, ça demande un temps d'adaptation pour tout le monde, en fait. Donc c'est dans toute la famille, c'est le gros chamboulement de dingue, quoi. C'est Fukushima.
Fukushima. Je crois que j'ai déjà dit cette phrase au cours d'un mariage où j'étais le témoin, mais je dis « l'amour est un déséquilibre permanent à la recherche de l'équilibre ». Et déjà, ça, c'est tout le temps vrai. À deux, c'est plus facile de s'équilibrer. Ça peut être très déséquilibré, et là, c'est dysfonctionnel, ou c'est une balance, quoi, qu'il faut toujours essayer de remettre du poids un peu là, réassaisonner ici, relancer la flamme là, et hop, ça fait un équilibre. Et quand tu mets un enfant là-dedans, ça déséquilibre un peu plus, quoi. C'est un peu plus de poids. Et puis, un deuxième enfant aussi. Et du coup, faire vivre le couple au sein de la famille qu'on est devenu, c'est un défi, quoi.
En fait, ce qui est très bizarre, moi, je trouve, hein, ce qui est difficile, en tout cas, pour le couple, c'est le temps qu'on a pour tous les deux. On a eu pendant 8 ans du temps non-stop. En plus, on a voyagé ensemble pendant 3 ans. On était 7 sur 7, 24 sur 24. Et on appréciait la compagnie l'un de l'autre. Et on l'aimait. Et ça faisait partie de notre quotidien. Et ça faisait partie de ce qu'on a... Enfin, moi, en tout cas, pour parler pour moi, j'adorais ça. J'adorais... la compagnie de Matt et ça me faisait beaucoup de bien Et là, d'un coup, bah, on a des enfants. Et ce temps-là, même s'il est au quotidien, et effectivement, là, c'est plus la même chose, en fait. Quand il y a les enfants, on est plutôt dans une vie de famille. Donc oui, il y a le couple parental, mais du coup, c'est le couple parental, pas juste le couple. Donc les fois où on arrive à être que tous les deux, c'est quand on arrive à laisser nos enfants à quelqu'un qui veut bien s'en occuper le temps que nous, on fasse une activité ou un week-end ou voilà, une soirée. Mais du coup, c'est rare. C'est carrément rare comparé à ces 8 ans d'amour intense et passionnel qu'on a pu vivre avant l'arrivée des enfants. Donc encore aujourd'hui, en plus la petite Alma, la dernière, elle a bientôt 18 mois. Donc ça y est, on commence à pouvoir la laisser aussi plus facilement, un peu plus longtemps. Voilà, on va retrouver un peu de temps. Mais là, on a fêté nos 13 ans. Au début du mois, 13 ans d'amour, ouais, au début du mois. Et on a pu se prendre un week-end, 3 jours, que tous les deux. Mais ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vécu ça, quoi. Enfin, moi, ça m'avait trop manqué. Et le fait de vivre ça, je suis rentrée. Suffisait d'être, des fois, les gamins, ils peuvent être relous, pour pas dire chiants. Dans les moments où t'es en difficulté avec tes gamins. Là, à ce moment-là, je me disais, non, mais là, j'ai qu'une envie, c'est de partir, en fait, avec mon gars, quoi. Juste partir avec Matt, ça m'avait fait trop du bien. Et je fantasme, des fois, encore, des moments où on n'a pas d'enfant et on vit une vie sans enfant. C'est pas pour parler de contre les enfants, parce que je les aime très fort et tout ça, mais il y a juste des moments comme ça, si on reparle du couple, en tout cas, et de l'amour, où ça manque, où j'ai une grosse nostalgie de ces moments-là, quoi, qui était trop bon. La vie familiale, ça apporte autre chose. C'est pas ça que je dis, là, si on ressent sur l'amour.
On aime les enfants de tout notre cœur, mais ce qui est sûr, c'est que ouais, c'est plus difficile de faire vivre le couple amoureux, ouais. C'est ça. En tout cas, ce qu'on a créé, effectivement, pendant ces 8 ans, fait qu'on a cette vie-là d'avant, quoi. On a eu cette vie tous les deux, et des fois, il y a des bribes. En effet, tu parlais de ce week-end de nos 13 ans, où on retrouve cette simplicité, ce duo qu'on est, quoi. Et c'est éphémère, et c'était bon, c'était super agréable. Ouais. Et de se dire, en fait, on sait toujours comment être tous les deux.
Mais, oui, c'est vrai. On sait toujours être passionné. Si on a le temps et l'espace, on arrive à se reconnecter à ça. Et ça, c'est rassurant aussi. Ça veut dire que ça fonctionne, quoi.
Toi, quand tu dis nostalgie, je dis saoudage parce que je me dis, c'était trop bien. Et finalement, on a la chance de l'avoir vécu aussi, d'avoir eu ce temps-là. On a eu une vie où c'était ça, comme s'il y avait plusieurs chapitres. Alors moi, si c'est pas cinématographique, ma comparaison à la vie, c'est celle d'un livre. Il y a eu différents chapitres. Il y a eu ces chapitres amoureux. Là, c'est le chapitre de la vie de famille. Mais je me dis aussi, ça va revenir. On sera plus vieux, moins en forme pour traverser le monde et faire aller marcher dans la cordillère des Andes. Parce que quand nos enfants seront plus grands, à un moment, ils voleront leurs propres ailes aussi. Et là, on se retrouvera tous les deux. Et est-ce qu'on arrivera toujours à se dire des choses, ouais, en dehors de l'organisation familiale? Je ne sais pas. ça faisait partie de... Enfin, je serais... Tu parlais tout à l'heure d'être entier ou non. Je ne serais pas complet si je n'étais pas devenu père, peut-être. En tout cas, je suis vraiment heureux de vivre ça dans ma vie. C'est un peu ma mission de vie aussi, d'être papa, quoi. Donc ça c'est super chouette. Et du coup, voilà, d'investir autant cette vie-là, ça fait moins de place à la vie amoureuse. Ouais. Mais ça, c'est une réalité, c'est tout, quoi.
Ouais, c'est clair, entre être mère, être femme, être amoureuse, être...
Parent, ouais.
En fait, c'est un amour qui est différent, maintenant. J'ai quand même l'impression là-dedans que on est toujours unis, on s'aime toujours... Je pense qu'on a des bases tellement solides dans notre amour, tous les deux, qu'on a construit avec toutes ces années, avec toutes ces expériences aussi qu'on a vécues dans notre histoire d'amour. Elle a vécu plein de vies.
Bah,
très intenses.
Bah, de ouf.
Et ouais, qui ont fait que ça s'est soudé à plein... Enfin, moi, j'ai ressenti ça, ça s'est soudé à plein d'endroits différents. Et donc, du coup, mon défi aujourd'hui, c'est plus ma parentalité, ma maternité, ouais. Parce que je sais que le couple, il est solide.
Et même j'ai bon espoir que ça se rééquilibre et puis que la vie amoureuse même reprenne le par moment, parce que parce qu'on est deux amoureux avant tout, quoi. Et on est parents, on sera parents toute notre vie maintenant, mais on aurait été amoureux encore plus longtemps.
Pour l'avenir, ce serait, oui, je pense, de trouver plus de temps tous les deux, d'arriver à consacrer plus de temps à nous en tant que couple, et pas que couple parental. Je pense qu'on n'est pas que dans le couple parental, évidemment, mais en tout cas que cette proportion de temps s'équilibre, effectivement, aussi je joue avec l'équilibre comme toi, Matt. Je pense que ouais, c'est ça, en fait, c'est un management en fait, de la vie, et puis à un moment donné, là, notre curseur, c'est clair qu'il est un peu, enfin, le mien en tout cas, il est un peu genre en mode organisationnel, parental, avec les enfants, et pour moi aussi. C'est vrai que je passe du temps aussi pour moi en tant que femme. Et du coup, ben, dans tout ce temps-là, pour l'instant, c'est vrai que c'est le couple qui est... Comme c'est pour moi ce qui est le plus solide, c'est le couple dans lequel on injecte et on investit moins de temps en ce moment. Mais parce que c'est le plus solide. Et en fait, du coup, j'espère solidifier tout le reste pour pouvoir réinjecter de l'énergie, mais la bonne énergie et des trucs chouettes. Mais on y travaille parce que du coup, on... s'organiser un petit calendrier de l'année 2024 avec plusieurs sorties. Et puis à chaque fois qu'on nous demande qu'est-ce que vous voulez comme cadeau ? Du temps tous les deux.
Je crois que c'est un peu la réponse. Du sommeil.
Du sommeil.
Du sommeil et du temps ensemble.
Donc, en tout cas, pour l'avenir, moi, j'ai confiance. J'ai confiance en nous. Je sais que... J'espère, en fait, qu'on va continuer comme ça, qu'on va trouver du temps pour nous. Après, on ne sait pas de quoi il fait demain. Et je pense que c'est aussi ça qui a fait notre force, c'est qu'on n'a jamais été dans la certitude que nous deux c'était pour la vie, mais plutôt dans la certitude que nous deux aujourd'hui c'est trop cool et qu'on aimerait bien que ça continue demain, quoi.
Solange, j'ai 59 ans. Secrétaire comptable, secrétaire de direction, femme d'affaires, psychomotricienne, comédienne. Alors, les informations sur l'amour, je les ai prises plutôt en regardant comment ça se passait entre mes parents. C'était pas du tout évident parce qu'ils se témoignaient très peu de choses. Et puis, dans les contes de fées... des choses bien mélo, et je me faisais beaucoup de... Enfin, je me faisais un gâteau à la crème de l'amour. En tout cas, ces espoirs-là. Au niveau sexualité, j'ai pas eu d'infos dans ma famille. Enfin, si ce n'est que les garçons, c'est dangereux parce qu'on peut tomber enceinte. Alors, comment, où j'en étais quand j'ai rencontré la relation actuelle? C'est il y a 9 ans, en pleine effervescence professionnelle, et plein d'envie, de désir, de créativité, d'énergie pour tout ça. J'étais seule, j'étais pas en couple, et puis la soirée se passe dans ce truc d'after. Je revois une ou deux fois où il est en train de discuter avec des jolies filles et tout ça. Et puis à un moment donné, en fin de soirée, il me croise puis il me dit « Ah, t'es encore là ?» Je dis « Bah oui, je suis encore là. » Et puis c'est tout, voilà. Et puis bon, il était avec d'autres gens, bref. Je rentre dans mon camion. Donc je vais jusqu'au parking où il était parqué. Et je m'installe bien gentiment, je ferme mes petits rideaux et tout, téléphone. Alors, je réponds, mais il est 2h du matin, 2h30, hein, truc comme ça, quoi. Ouais, t'es où? T'es rentré? Je dis, oui. Ah, moi, j'ai un super appartement, tu veux pas venir boire un verre et tout? Je dis, là, je viens d'arriver dans mon camion, je crois pas. Puis bon, attends, je te rappelle. Je prends un petit moment pour réfléchir parce qu'en général, je vais trop vite. Et puis après, je m'en veux. Alors, je réfléchis. Enfin, pas très longtemps, mais... Et je me dis, non, parce que là, il est complètement bourré. Et la seule chose qu'il va vouloir, c'est me sauter dessus, quoi. Et moi, j'ai juste pas envie de ça. Donc, je le rappelle et je dis, écoute, c'est super gentil, ça me flatte beaucoup, parce qu'évidemment, il me plaisait beaucoup. Ça me flatte beaucoup et je suis vraiment honorée que tu m'appelles et que tu aies envie de venir et tout. Mais là, je préférerais que ce soit dans d'autres conditions, qu'on se soit un petit peu rencontrés et puis voilà. Ah bon, c'est comme tu veux. Parce que je peux venir aussi dans ton camion et tout. J'ai dit, ouais, non, mais ça ne change rien, là. C'est... Voilà, et puis bon, je crois qu'après 5 minutes, il devait dormir. Moi, j'étais sur un petit nuage en me disant, ah, il m'a quand même remarqué. Bon, un peu pour me sauter dessus. Et puis en dernière roue de secours, parce qu'il avait dragué à peu près toute la terre entière, là. Mais n'empêche qu'il avait gardé ma petite carte et il m'appelait. Puis le lendemain, il s'est un peu excusé quand même. Et moi, j'ai redit que j'étais vraiment contente parce qu'il me plaisait. Pour une fois, j'étais vraiment cash. J'ai dit, voilà, oui, je suis contente parce que tu me plais. Voilà. Puis après, il y a eu bon, un peu des 2-3 petites... Enfin, bon, j'ai beaucoup rêvé sur lui. Après, je me suis dit, non, mais je veux arrêter de rêver sur les hommes. C'est bon, quoi. Soit c'est possible, soit c'est pas possible. Donc, je l'appelle et je lui dis, voilà, moi, j'ai trouvé très fort, pour moi, tout ce que j'ai ressenti de te rencontrer et tout. Et je lui dis, voilà, toi, t'en es où? Et il me dit, mais moi je voulais pas... Je voulais pas faire du Scrabble, hein. C'était vraiment... voilà, c'était... En fait, moi, je suis mariée et je n'ai pas envie de... Enfin, je n'ai pas du tout envie de quitter ma femme, mais par contre, on n'a plus du tout de relation sexuelle entre nous. Et donc, moi, là, je cherchais à pouvoir me faire du bien, quoi. Et c'était très clair. Et c'était très posé. Et c'était pas... Là, peut-être que je le dis, je ne sais pas comment je le dis, mais en tout cas, comme je l'ai ressenti, c'était... Ça m'a fait du bien parce que c'était un mec clair qui me disait les choses en direct et que je pouvais arrêter de rêver. Donc, j'ai dit, bon, OK, c'est bon. On ferme la porte, on arrête de rêver au prince charmant qui n'existe pas. Ça, je connais le feuilleton, enfin le processus. Donc, OK, super, merci. Puis voilà, puis si un jour tu passes dans la région, ben oui, bien sûr, viens, passe un coup, tout. Mais je sais que, voilà, c'est pas... Peut-être que j'avais aussi dit, ouais, si jamais, bah, si, oui, que je voulais en tout cas, de toute manière, le rencontrer davantage avant d'avoir une histoire même de cul. Mais de toute manière, je n'étais pas partie pour ça. J'en avais déjà eu là, c'est bon, j'avais compris que ce n'était pas trop mon truc. Et là, je voulais autre chose. Lui, il m'a dit, ouais, il faut que je fasse quelque chose. Je vais quitter ma femme, c'est bon. Mais je l'ai questionné quand même sur sa femme parce que je ne voulais pas être celle qui... casse le couple, mais je crois que vraiment, ça faisait 10 ans qu'ils étaient ensemble depuis 26 ans, et ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient plus du tout de relation, ni sexuelle, ni à se parler. Ils ne se parlaient plus. Il a aussi, pendant cette année, il a eu besoin d'aller voir ailleurs, parce qu'il n'était pas suffisamment comblé physiquement avec moi. Ce qui a été chaud, parce qu'il y avait déjà assez de problèmes comme ça. Donc ça a un peu mis, pour moi, ça a un peu émoussé ma confiance. Et d'ailleurs, il a clairement menti, et j'ai vraiment senti, et du coup, j'ai été lui tirer les verres du nez. Il m'a dit qu'il aurait de la peine à ne pas... Enfin, qu'il était un menteur. Alors bon, je reste avec ça, avec le fait que il peut me mentir et comment on n'habite pas ensemble et que voilà. Pour le moment, c'est quand même l'idée. Moi, j'avais envie de rester. Pour moi, c'est important la fidélité. C'est vrai qu'on n'en avait pas vraiment parlé dans ces termes-là. Donc, ça a permis d'en parler. Mais ça, on le savait un peu tacitement. Mais en tout cas, on l'a redit, puisque lui, toi, après, il a caché aussi. Voilà. Non, puis au tout début, tu vois, lui, il est super porté sur... Il a une activité sexuelle très importante. Il a toujours besoin. Et au début, on a tout le temps envie aussi, parce que c'est le début d'une relation. Puis après, ça se modifie. Ça ne veut pas dire que j'ai plus envie, mais c'est différent. Et lui, ça reste pareil. S'il pouvait faire 3 fois par jour. Donc c'est difficile pour lui aussi, effectivement, parce qu'il doit assouvir tout ça, mais ça, c'est un souci un peu... Moi, j'essaie de prendre des hormones en disant... Bon, parce qu'après, il y a eu aussi la ménopause, qui fait que c'est un peu plus douloureux, les relations sexuelles, donc il faut quand même plus de temps pour... on ne peut pas juste faire des galipettes derrière... Ben voilà, il faut un petit peu de préparation et tout. Moi, j'aurais aimé plus de créativité, d'inventivité dans nos rapports. Et parfois, il me touche trop fort. Ça, c'est pas agréable. Mais si je lui dis, en fait, du coup, il touche plus. Alors, bon, au bout d'un moment, je ne sais pas s'il faut dire ou pas dire, parce que j'inhibe en disant mes besoins. J'inhibe l'autre, donc je me dis je ne sais pas bien dire et on tombe dans le travers de faire je tombe dans le travers de faire un peu voilà comme je peux pour trouver mon plaisir et que lui soit bien et c'est pas très créatif quoi. Ça il n'entend pas quand j'ai fait un stage de chamanique de libération émotionnelle, je suis revenue mais à fond le féminin sacré, le truc machin. Mais ça lui a fait peur. J'ai l'impression vraiment que ça le fait peur. Alors moi ça m'a aidé à dire moi j'ai besoin de trouver pour moi comment c'est bien, comment c'est sympa et j'y arrive. Depuis la ménopause, j'étais clitoridienne jusqu'à là, et là j'ai trouvé comment c'était aussi le plaisir vaginal, donc c'est bien. En tout cas, pour moi, il y a des choses qui se sont passées, tu vois, mais ça reste difficile à partager profondément et sincèrement, et peut-être légèrement aussi. En fait, j'ai pas envie de me retrouver dans la position où c'est toujours moi qui demande et qui dit comment ça pourrait être, ou qui veut chercher, comment ça, tu vois. Ça, pour moi, c'est compliqué. C'est dans la relation avec les hommes que j'ai eue, c'est souvent ça. C'est pas l'homme qui tire, qui dit, voilà, ah, j'aimerais aller voir telle pièce de théâtre, j'aimerais aller voir, je voudrais aller en vacances, je voudrais faire l'amour un peu différemment. C'est toujours moi, ou en tout cas, ouais, qui propose. Et c'est vrai que j'y vais tranquille parce que j'ai pas envie d'être la grande proposition, celle qui propose à fond tout le temps de ce côté-là aussi, quoi.
Oh, la belle vie sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime, et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là. Oh.
Je m'appelle Nathanaël et j'ai 40 ans. Je viens d'une famille témoin de Jéhovah, où tout est très cadré par rapport à des principes qui sont élaborés par rapport à la Bible et au concept des témoins de Jéhovah, qui sont des concepts judéo-chrétiens, c'est-à-dire pas de relations sexuelles en dehors du mariage et de relations avec... voilà, si on côtoie une fille, c'est pour... enfin, de toute façon, il n'est pas question de côtoyer autre chose qu'une fille quand on est un garçon. Si on côtoie quelqu'un, c'est parce qu'on va se marier avec, quoi. Ou qu'on envisage de se marier. Mon entrée, mes premiers émois avec des femmes, parce que j'ai toujours été attiré par les femmes, encore maintenant, c'était... bizarre parce que c'était toujours caché, donc je pense que ça a créé aussi de l'excitation, parce que quand t'arrives à l'adolescence et que tu fais des choses cachées, ça devient peut-être encore plus croustillant. J'étais dans le mensonge du coup avec mes parents par rapport à ça, par rapport à d'autres choses aussi quoi, mais c'était quand même comme forcément, ça se savait à un moment donné quoi, soit que mes parents le captaient, soit que j'étais dénoncé par la communauté. Du coup, c'était toujours un peu grave, quoi. D'aucune manière, on m'a demandé ce que je ressentais à ce moment-là. On m'a juste dit, le principe est pas le bon, et réaligne-toi. J'ai eu un souvenir assez clair, c'est bizarre, d'une gamine qui s'appelait Rebecca. Et dans mon souvenir, elle a été chercher des pubs dans la cage d'escalier. Et avec ses pubs, elle a fait un petit lit sur la butte derrière l'immeuble, quoi, derrière la barre d'immeuble. Et j'ai juste souvenir qu'on s'est allongé là et qu'on s'embrassait et qu'il faisait beau, quoi, et que je voyais le soleil à travers mes yeux. C'est l'histoire de mon premier baiser. Après toutes les autres histoires qui ont suivi, bah, c'était bien après, quoi, à partir du collège, tout était caché. Tout était caché et je me souviens de la première fois que je suis tombé amoureux. Ouais. C'était au lycée. Je devais avoir 15-16 ans, un truc comme ça. Et là, ça a coïncidé à la rébellion avec mes parents, dans le sens où j'ai affirmé le truc avec mes parents, à dire « Ok, j'ai une copine et je veux plus être témoin de Jéhovah ». Et je m'en suis servi pour m'extirper, quoi. Et puis pour m'affirmer en ayant une raison valable pour moi, quoi. Quelque chose à défendre, le fait est que j'étais amoureux et que j'avais envie de faire ma vie et pas selon les principes. Et que j'avais envie de passer du temps avec ma copine et qu'il était hors de question qu'on parle de mariage ou quoi que ce soit. Et que ça allait aussi avec le fait que je voulais plus être témoin de Jéhovah. Donc avec mes parents, tout était mélangé, pas évident. Ouais, je m'en suis servi pour m'émanciper, en partie. C'était un drame, clairement. D'autant plus que j'étais amoureux d'une personne qui m'en a fait voir des quantités astronomiques de malheur et de drame. Pour résumer, je sais pas, je peux parler de la fin, parce que ça résume assez bien. Moi j'avais l'impression d'avoir vraiment aimé cette personne et de tout faire pour que enfin, c'est le premier amour, donc la passion totale, et à la fin, je devais avoir 21 ans, on est resté 4-5 ans ensemble, et à la fin je regardais par terre, je me faisais frapper, je me faisais tromper de partout, et la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle était enceinte de quelqu'un d'autre et qu'elle disait qu'il était de moi, l'enfant, alors que l'enfant n'était pas de moi. Et que mes parents ont appris ça. Enfin bon, bref, tout un micmac de trucs. J'ai appris plus tard, parce que sur le moment, elle me disait « L'enfant est de toi et je vais avorter ». Mes parents étaient au courant, le drame absolu dans ce genre de... dans la conception chrétienne, judéo-chrétienne, d'avorter, c'est juste pas possible. Et nous, on avorte. Mes parents, complètement traumatisés de ça. Et donc, quand je suis sorti de ça, je suis sorti de cette histoire d'amour, j'ai déménagé, donc je suis sorti des concepts que les parents voulaient me proposer, en tout cas, et que j'ai réussi à quitter cette personne. Elle me trompait ouvertement avec quelqu'un d'autre, du coup, je dis bon, c'est là. Là, c'est bon. C'était la dernière fois où j'ai fait une. Je suis pas quelqu'un de violent, mais j'ai mis un coup de tête au gars. On était dans la même promo et elle m'a annoncé ça en cours. Et c'est monté en moi. Et quand je suis sorti de cours, la première personne que j'ai vue en train de fumer une clope, vraiment, j'ai ouvert la porte et il était là. Et bam, c'est parti tout seul. J'ai mis une tête. Et c'est devenu l'un de mes meilleurs potes. Ça a mis 6 mois, 1 an avant qu'on se reparle. Et puis après, elle lui a fait pareil à lui. Et donc on est devenus très très potes. Et finalement, cette nana, elle est partie avec le troisième mec avec qui elle me trompait. Et elle trompait ce gars-là. Elle est partie en Nouvelle-Calédonie avec qui elle a fait 2 enfants. Elle est revenue là. Il n'y a pas longtemps, je l'ai revue. J'avais envie de la revoir. Et puis elle était là, puisqu'elle l'a quitté. Elle a tout bazardé encore. Bon, bref, je sais pas trop qui était cette personne, mais bon, j'ai l'impression d'être un peu... de découvrir... Pardon, je mange des pistaches en même temps. Ce que je retiens de cette relation, c'est que j'ai fait un peu tous des drames, notamment au niveau de la gestion de conflits. Je me suis dit, très rapidement, c'était une compilation de trucs à pas faire. Mettre en opposition ta famille et la vie de couple, hurler... la jalousie, se faire frapper, le mensonge, la trahison, se renier, quoi. Donc ça a été une compilation de trucs vraiment pas chouettes qui m'est arrivé en premier. Bon, c'est pas dramatique, hein. Étant donné que il y avait quand même une éducation très très normée, je me suis fixé des règles, des nouvelles règles, en me disant, ok, maintenant tes nouvelles règles, c'est ça, ça, ça. Quand tu rencontres quelqu'un, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il faut qu'il y ait les communications, il faut pas hurler. Quand il y a un problème, on peut discuter calmement. La jalousie, c'est pas normal parce que t'es quelqu'un de fiable et que tu. Puis je sortais aussi de mes parents qui me traitaient de menteur, et toujours, quoi. Et de quelqu'un de fourbe, et en fait, forcément non. Mais comme cette nana-là me trompait à tout va, et ben elle était hyper jalouse et elle me reprochait des trucs qui n'existaient pas. Et sorti de ça, je suis sorti de mes parents et de cette relation-là, je me suis dit, mais en fait, je crois pas que je suis un menteur, je suis pas quelqu'un de fourbe, et je suis quelqu'un de fiable, en fait. Voilà, ça a remis les pendules à l'heure, et j'ai vraiment un souvenir de quelques semaines, quelques mois où... J'ai rencontré un gars qui me connaissait avant, enfin, et qui m'a connu après, et qui m'a dit, mais en fait, t'es un mec super, quoi, je m'en étais pas rendu compte. Et c'était un peu une phrase, comme ça, très très anodine, mais moi qui m'a tilté, un truc qu'on m'avait jamais dit. À 22 ans, 23 ans, je sais pas, quelqu'un qui me dit, mais t'es vraiment un super type. Et je l'ai senti vraiment comme un truc un peu sincère, où quelqu'un me découvrait. Et je me suis dit, ah ouais, peut-être c'est vrai, quoi, en fait, quoi. Et je sais pas, depuis ce jour-là, en fait, je me suis rendu compte de mes qualités aussi, quoi. De certaines de mes qualités, j'ai plein d'autres défauts, quoi. Mais en tout cas, c'est pas celles qui m'ont défini pendant le virage que j'ai eu à l'adolescence et le lien que j'ai pu avoir avec mes parents, avec cette nana-là, avec mon premier amour, où d'un coup, j'étais pas une bonne personne, quoi. Et sorti de ça, voilà. Donc un peu un crash test assez violent. Et ma mère m'a dit un truc très 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 très, très dur la dernière fois où je me suis séparé. Elle m'a dit, mais tu sais, avec ton père, on a les mêmes souvenirs. Et toi, tes souvenirs, tu peux les partager avec personne. Et je l'ai pris vraiment de plein fouet parce que c'était dur. Parce que moi j'ai ressenti les mêmes choses avec ton père, quoi. Et on peut en parler, on n'a pas le même, mais en tout cas on peut savoir ce qui s'est passé. Dis-toi, quand tu repenses à quelque chose, tu vas en parler à un copain, mais lui il va pas savoir de quoi tu lui parles. Il va avoir les faits, mais dans le fond, il va pas le ressentir. Donc c'était trash, ce truc, mais en y repensant, je me suis dit, ben, en fait, que j'avais anticipé ce truc-là. Parce que, en fait, j'ai des super relations avec toutes les ex que je peux avoir dans ma vie. Parce que je me suis toujours violenté pour dire on garde contact. Et tout de suite, c'est pas on se parle pas pendant 6 mois. C'est tout de suite, j'ai forcé le truc ou enfin forcé. Je pense que j'ai forcé le truc, même si j'avais l'impression que ça me faisait pas du bien. De dire on continue de se donner des nouvelles, on partage des choses. Je suis pas le genre à appeler la personne tous les 2 jours, quoi. Mais on se donne des nouvelles une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 6 mois. Et il y a des personnes que on s'est pas vu depuis des années, mais on s'appelle une fois tous les 6 mois et on se donne des nouvelles et tout va bien. Et c'est chouette. Et des fois, quand on a des moments durs, on se rappelle. Moi, je les rappelle. Elle me rappelle pour me dire, OK, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Et en fait, c'est des points de repère dans ma vie, différents points de repère. À chaque fois, c'est des moments quand même 3-4 ans, donc ça compte. Où on te dit, mais à l'époque, en tout cas, t'étais comme ça. Et je me dis, ah ouais, ok, c'est vrai que le chemin, il a évolué quand même. Il y a un gros chemin qui s'est passé. Ou non, en fait, je suis toujours cette personne-là, en fait, quoi. Ça n'a pas évolué. Et ça, c'est bien, ou ça, c'est pas bien. Je sais pas, sans émettre de jugement sur qui j'étais ou qui elle était. Bon, en tout cas, c'est une manière de... C'est une autre manière d'avoir de la continuité dans des relations intimes avec des personnes parce que oui, j'ai pas mis une croix, mais en tout cas j'ai 40 balais et j'aurai jamais l'histoire d'amour de mes grands-parents qui ont fait 70 ans de mariage, de mes parents qui ont fait 35, 40 ans de mariage, je sais plus combien. Donc j'essaie de faire la mienne parce que finalement j'étais quand même éduqué dans ce genre de truc. Ça fait 3-4 ans que je suis célibataire, entre guillemets, où je rencontre des femmes pendant une nuit, quelques semaines, quelques mois. Je me suis mis assis sur des choses et en même temps, je peux rien y faire. Enfin, j'étais assez sensible au coup de foudre et puis j'ai réessayé de me dire non, attention au coup de foudre. Parce que tu vas tomber amoureux d'une personne qui n'existe pas. Et ça va mieux, je crois. J'ai arrêté de projeter des trucs qui n'existaient pas chez les gens, quoi. Mon fantasme.
Parce que c'est quoi que tu cherchais ?
Bah, la femme de mes enfants. Je crois que je la cherche toujours, en vrai, hein, mais... Ouais, je crois que c'est ça. Je me sens moins dans la salle d'attente. C'est marrant parce que je me suis toujours... Très tôt, je me suis dit, ok, je serai le premier papa de la bande de potes. Et je suis le dernier. Enfin, je suis même pas le dernier, parce que je le suis pas. Et de ce que je vois autour de moi, et des couples qui durent, parce qu'en fait, c'est ce qu'on cherche quand même, j'ai l'impression, c'est faire durer un couple. Enfin, je sais pas, quand même, il y a un maximum de gens qui se disent, putain, on essaye de faire durer le truc le plus longtemps possible. Et j'ai l'impression que les couples qui durent, c'est les couples qui savent se détester. Et qui savent se détester longtemps, quoi. Pas 15 jours, 3 semaines, 6 mois. Des fois, un an, ils se détestent pendant un an. Ils se supportent plus, quoi. Et après, ils se re-aiment. Et peut-être que dans 5-6 ans, ils se redétestent. Et les couples, en tout cas, autour de moi, qui fonctionnent, j'ai l'impression qu'en majorité, j'entends des trucs, je dis « Quoi ? Moi, je me serais barré depuis longtemps. » Et puis, 6 mois après, elle me dit, oh, ils me disent, ok, c'est réglé, c'est bon, maintenant ça va mieux, c'est passé. Et hop, ça continue. En fait, je crois que pour l'instant, j'ai pas cette carte-là dans ma. J'ai pas aimé suffisamment quelqu'un suffisamment fort, ou j'ai pas été aimé suffisamment fort pour dire, on va se battre les 6 putains de prochains mois ou la prochaine année pour passer ce truc. Ou tant pis, on va se détester, ou tant pis, on va se tromper, ou tant pis, on va se foutre sur la gueule, et on va se re-aimer dans un an. Alors je dis pas qu'il faut se foutre sur la gueule, c'est une erreur, bien sûr. Mais tout ça pour dire que on cherche le point numéro 1 de ce putain de bouquin qui explique comment faire durer une relation de couple, quoi.
Alors, je m'appelle Nathalie, on m'appelle Nat, comme tu veux, et j'ai 57 ans. Je crois qu'on est le 24 octobre 2023. On ne m'a rien raconté, en fait. On ne m'a rien raconté. Par contre, j'ai le sens de l'observation. Donc, en ce qui concerne le sexe, il y avait beaucoup de sexe à la maison, dans ma famille. Peut-être un peu moins d'amour. Je pense que mes parents étaient assez libres. Et je pense qu'effectivement, à mon avis, leur relation s'est basée sur une relation sexuelle. Je pense qu'ils s'entendaient bien sexuellement. Après, moi, je suis... le sexe, on parle de ça, en fait, la sexualité, c'était compliqué. Je suis une petite fille agressée, à l'âge de 8 ans. Voilà. Donc, du coup, il y a eu du déni assez incroyable, en fait. Je pense que ça fait partie de la chaussure qui m'a manqué pour faire mon parcours. Et que du coup, il est le parcours que j'ai est sûrement un parcours atypique. Et oui, je trouve que c'est important d'en parler, parce que je crois que justement, pendant très très longtemps, j'en ai pas parlé. Je suis passée par le déni, par la culpabilité, et de me construire un masque qui était la rigolade. Mais c'est pas grave. Donc voilà, et puis c'est au fur et à mesure du temps où justement on se rend compte que les relations amoureuses ne sont pas celles qu'elles devraient être, et elles sont basées sur la violence, elles sont sur le fait que tu rencontres quelqu'un parce qu'on doit te faire mal et on ne doit pas te respecter. Donc à partir du moment où tu prends conscience de ça, à un moment donné tu te dis d'où ça vient, quel est ce point de départ, qu'est-ce qui s'est passé, et tu te rends compte que ce point de départ il est là, et qu'à un moment donné, moi personnellement j'aime bien effectivement que les choses ça pèse, j'adore la vie, donc du coup j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de donner de belles choses à ma fille aussi, et puis même aux autres, donc du coup bah, je fouine, je cherche, voilà. Donc mon rapport il a été déjà de comprendre, d'accepter, de voir que ce qui s'était passé n'était pas normal en fait, et après mon chemin il a été... comme j'imagine un alpiniste qui essaye de gravir effectivement un sommet et qui effectivement se prépare et essaye de trouver toutes les solutions pour arriver jusqu'au bout. J'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie. J'en ai eu beaucoup que j'ai cru aimer, que j'ai aimé, et après, voilà. En tout cas, j'ai fait des essais, mais j'en ai eu plein avec qui j'ai fait l'amour, pas l'amour finalement. J'en ai eu plein. Et puis, il y en a quelques-uns où ça a vraiment été des histoires marquantes. Et je crois à un moment donné que le jour où mon mari, mon ex-mari, a voulu me décalquer la tête, en fait, pris par les cheveux, jeté sur le lit et mis ses genoux sur moi, en fait, en me mettant son poing devant la gueule, en me disant « je vais t'éclater, tu fermes ta gueule, c'est moi qui commande », enfin voilà. Donc il n'y avait pas d'acte sexuel, mais la position, on était dans notre chambre, on était sur notre lit, donc c'était pas loin de ça. Et c'est effectivement à partir de ce moment-là où je trouvais que c'était une violence de plus, en fait. Et je ne dis pas que j'ai accepté cette violence, c'est qu'à un moment donné, mon choix avait été, d'un moment donné, de choisir cet homme-là sans m'apercevoir qu'il était violent. Il m'a fallu du temps pour divorcer parce qu'il ne voulait pas me lâcher, donc ça a été violent. Puis après, on est rentré sur des rapports sexuels forcés, sur du mensonge, sur de la peur. J'attendais qu'en fait, il soit complètement bourré, donc je me cachais. Je partais effectivement en voiture, j'attendais pour rentrer à la maison, pour être sûre et certaine qu'il ronfle bien et que voilà. Jusqu'au jour où était au tribunal et juste même avant, il ne veut même pas rentrer dans la voiture parce qu'il dit non, t'es ma femme de ma vie, je ne te laisserai pas, non, je ne veux pas que tu es obligée de jouer fine pour qu'il rentre dans la voiture, pour qu'on aille ensemble devant l'avocat et qu'il signe. Et à partir du moment où il a signé, je descends, il me dit on y va, je dis non, je suis désolée, on est divorcés, tu te démerdes. En fait, quand je te dis qu'effectivement, ce déclic où tu t'aperçois qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas normal, tu t'aperçois que toutes les relations avec les hommes, qui ont été des relations d'amour, tu vois, mais d'amour cruel, ou l'amour qui fait mal. Pas le bon, pas le meilleur, pas le merveilleux. Celui qui te fait souffrir. Et le père de ma fille, ça a été une violence psychologique terrible, mais terrible. Et tout a changé le jour où je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Et d'un coup, je lui dis, il faut que je te dise un truc, je suis enceinte. Et là, il s'est tourné vers moi, juste comme ça, il a fait, t'as vu mon nouveau portable? Et là, j'ai regardé, j'ai pas compris. J'ai juste compris, et ça m'a traversé tout le corps, que j'étais dans la merde, en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. J'ai rencontré une autre personne. J'ai rencontré une personne méchante, qui cherchait à me faire du mal, qui était jaloux, qui me... Dès que je faisais quelque chose, j'étais de la merde. Et si tu veux, ça a été... C'est juste surréaliste pour moi, en fait. Voilà. Et après, t'as fait un enfant avec cet homme-là, en fait, tu vois. Et là, ça, c'est très, 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 très difficile, très difficile. Il faut des années pour se rendre compte de tout ça, en fait. Et c'est là où je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait quelque chose que je n'avais pas compris dans la vie, en fait. Et je voulais comprendre d'où ça venait. Et j'ai compris, ce point de départ, quand tu te fais agresser à l'âge de 8 ans, et que tu échappes au viol, parce que j'ai échappé au viol, mais quand même j'étais à poil, j'étais contente d'une petite rue, le mec il m'a terrorisée, il m'a bloquée quand même, il avait son pantalon baissé, ça s'appelle quand même une agression sexuelle. Voilà, même ça il m'a fallu du temps pour nommer ça. Et que quand tu traverses la route, t'es à moitié nu et que tu perds ton cartable, que tu rentres, que t'es en panique, et qu'on arrive, que tu arrives chez ta grand-mère, parce que c'est elle qui te garde, et qu'elle te demande qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce qui va pas, mais pourquoi, oh, c'est pas grave, t'es pas grave, t'en verras d'autres. Et je peux te dire encore ce jour-là, ce que j'ai ressenti quand elle m'a dit ça. Et je me suis dit, elle a peut-être raison, c'est peut-être pas grave. J'ai pas eu le choix, sinon on m'a laissé dans la rue, on m'a dit, vas-y, grandis. Bon, on m'a rien dit, même. On m'a laissé. Donc, je fais quoi? T'as deux solutions. Soit tu flanches et tu vas à fond. Drogue, prostitution, parce que j'aurais pu, tout ça, en fait. Ou alors tu me dis, non, je vais peut-être essayer. Tu vois? Et j'aurais voulu avoir une maman, ouais. Une maman qui me dise... Et je crois même que, oui, qui me disent « Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Tu sais, même quand, tu vois, je me rappelle les derniers temps, où justement la dernière grande, vraiment histoire, où justement, Salah, il a failli me décalquer la gueule, je me souviens de mon amie qui est partie, mais... où elle, vraiment, un jour, elle a vu... C'est elle qui m'a dit, « Nat, c'est pas tout à fait normal ce que ça te fait là. C'est pas tout à fait normal. » Tu peines à dire tout ça, en fait. Tu ne le dis pas. Et je pensais, pendant longtemps, j'ai pensé que d'être une bonne amante était quelque chose d'important dans la vie, en fait. Comme je pense encore aussi que s'il y a plein de choses qui ne vont pas bien, c'est que souvent, les gens sont frustrés sexuellement. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était un élément ultra important, la sexualité, c'est-à-dire d'avoir l'orgasme. Ça a toujours été un objectif dans ma vie, de jouir. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'était quelque chose de très important. Donc, j'ai mis en place ce truc-là en me disant, c'est ça qui va être important. Donc, du coup, quand dans ma sexualité, elle n'était pas... Je ne me faisais pas sauter à droite et à gauche. Non, j'ai aimé beaucoup de garçons. J'en étais avec beaucoup de garçons. Et ce qui était important, c'était que je donne du plaisir, qu'ils m'en donnent, et qu'on passe, voilà. Le sexe était important pour moi, en tout cas. C'est apparemment, ben voilà, j'ai 57 ans, je suis un peu moins croustillante, mais bien que, je suis quand même bien contente d'être celle que je suis, tu vois. Mais voilà, t'imagines, voilà, je ne sais pas quel âge tu as, mais... 20 ans, 27 ans et tout, ben voilà, ouais, je faisais partie de ces femmes où... tout le temps. Et c'était même... C'est lourd, quoi. Mais du coup, voilà. Et de nouveau, j'ai envie d'aimer. Alors ça, c'est, je trouve que c'est le plus beau cadeau, en fait. Je tombais beaucoup amoureuse, en fait. Et pendant longtemps, ça ne m'arrivait plus. Mais du tout. C'est-à-dire même... ah mais non, mais plus jamais, laissez-moi. Et là, j'ai de nouveau envie. Alors, je me dis que c'est une bonne chose. J'ai souvent été seule, moi. T'as bien compris que j'étais seule. J'ai aussi compris qu'il fallait que je sois indépendante, donc je le suis. Donc je fais des choses comme... voilà. J'ai essayé de faire des choses avec les hommes, avec un partenaire. Et ça ne l'a pas fait pour le moment. Et je me pose cette question. Est-ce que j'ai peur? En tout cas, parfois, je trouve ça triste. Je ne vais pas me mentir. Hein. Je trouve ça triste. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi, en fait, tu vois? Donc, du coup, c'est pour ça que je me dis, mais... Et en même temps, c'est compliqué parce que je suis quelqu'un de tellement indépendante, tellement libre. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Dès que j'ai une contrainte, je fais en sorte de ne plus l'avoir. Que ce soit dans le travail, dans l'amitié, dans tout. Voilà, je ne veux pas de contrainte. Donc, bah, je suis capable de casser les trucs, de partir. J'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup, tu vois, voilà. Parce que j'ai besoin de me sentir libre, en fait.
Menstruel, adjectif.
Cavaleuse, Fisionne, substantif.
Qui a rapport au menstrue.
Argot.
Éclaté, verbe intransitif.
Clandestine, adjectif.
Hémorragie menstruelle.
Coureur de filles, coureuse de garçons.
Journal clandestin. Presse clandestine.
Domaine des sensations. Domaine
les
de.
Les filles sont ordinairement pubères vers l'âge de 11 ou 12
qui
ans.
Existe.
Entre parenthèses, trois petits points.
Fonctionne.
Se briser avec violence.
Se fait de manière secrète.
Soudaineté.
En dehors de ceux qui exercent l'autorité.
En projetant des fragments.
À l'encontre des
ballons,
lois établies.
Mine, vitre qui
l'abondance de cette évacuation périodique varie chez les différents individus.
Assemblée, démarche.
Des gamins
de la procédure normale et
le gonflement des mamelles et l'éruption du flux.
Emploi adjectif.
En sont les présidents.
Surtout en Espagne et en Italie.
Bon matin, le récipient dans lequel je fabriquais de l'hydrogène m'éclatait
dans la constitution
et
de leur manière
qui ne serait pas du cavaleur. D'un choc ou d'un changement
de l'avalement, de l'hypotension avec tendance au lipotinie.
En parlant d'un
trouble menstruel fréquent.
Entre parenthèses, Rossignol. dict.darg.arc.fr et fr.arc.1901, page 24.
Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
Gymnastique sonore, c'est fini. Vous avez entendu une émission spéciale du collectif Les menstruels, avec le troisième épisode de la série Faire le plein amour. Pour écouter les deux premiers et les archives de l'émission, rendez-vous sur canalb.fr. À la semaine prochaine!
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.